Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Jean-Pierre Boutinet.
Ça, c'est bien dit. Enseignant-chercheur en sciences sociales, avec lui, nous réfléchirons à ce que certains appellent la tyrannie du projet ou encore la société sur projet. Il s'agira du premier moment de cette semaine entièrement imaginée autour du mot « but ». Ça commence. Le 6 juillet 1966, Günther Anders, penseur et essayiste allemand, écrit « Il y a vraiment des époques, des jours, des instants où il semble impossible de ne pas devenir hystérique, tout simplement parce que trop de choses révoltantes nous sont imposées en même temps. Ce devait être une bonne époque, je n'arrive presque plus à m'en souvenir, lorsqu'il nous était encore permis de nous énerver à chaque fois à cause d'une seule, d'une unique infamie, lorsque nous pouvions encore nous concentrer émotionnellement. Aujourd'hui, dans le bref espace des 5 minutes pendant lesquelles on feuillette son journal, on est attaqué en même temps par un génocide à la première page, par des calomnies à la deuxième, par des hypocrisies à la troisième et ainsi de suite. Je ne sais pas s'il est bon signe ou rassurant de pouvoir en dire autant en 2014, mais c'est le cas. Il est 16h passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Sur l'image polaroïde du jour apparaissent, vous verrez, deux jeunes mamans fluo. Sur le plateau du milieu, vers 16h20, l'introduction d'une semaine imaginée autour du mot « but ». La première façon de l'aborder, ce mot, sera psychosociologique. Nous évoquerons la très grande place prise par le but et le projet dans nos sociétés et dans nos existences. Vers 16h50, nous écouterons un poème de Gilles Heillot et à 17h, nous serons rejoints par les équipes du 5 à 7. En attendant, débutons, et franchement joyeux, un nouveau déballage de bibliothèque. La comédienne Ava Hervier choisit pour commencer un extrait de « La pluie d'été » de Marguerite Duras. On l'écoute.
Un autre soir. Ces murmures, ce sont les voix de Jeanne et de Ernesto. Elles arrivent du couloir ouvert où ils dorment. Jeanne. On ne le sait pas que Dieu n'existe pas. Les voix de Jeanne et d'Ernesto sont douces. Elles se ressemblent. Ernesto, non. On le dit seulement, mais on ne le sait pas. À quel point il n'existe pas. Même toi, tu le sais pas. Jeanne, tu dis « il n'existe pas comme tu dirais qu'il existerait ». Silence. Ernesto, qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit « comme s'il existerait ». Jeanne, oui. Silence. Ernesto, non. Jeanne, tu as dit « Dieu n'existe pas comme une fois tu avais dit « Dieu, il existe ». Silence. Jeanne, si c'est possible qu'il n'existerait pas, alors il est possible qu'il existe. Ernesto, non. Jeanne, comment il existerait alors s'il n'existe pas ? Ernesto, comme partout dans le monde, comme pour toi, comme pour moi, c'est pas une question de plus que ça ou de moins que ça ou de comme s'il existerait ou de comme s'il n'existerait pas. C'est une question... Personne ne sait de quoi. Silence. Jeanne, qu'est-ce que tu as, Ernesto ? Ernesto, la peur, elle n'est pas fixe, elle augmente, elle rend fou. Jeanne, ça fait souffrir ? Ernesto, non. Ernesto a posé ses mains sur le visage de sa sœur. Ernesto, pleure pas, surtout pleure pas. Jeanne, non. Ernesto enlève ses mains du visage de Jeanne. Il les rassemble sur son visage à lui. Jeanne, on va plus aller mourir ensemble, toi et moi. Ernesto, non, on va plus. Tu le savais. Jeanne, oui. Ernesto, comment tu le savais ? Jeanne, par l'histoire du roi. Silence. Jeanne et Ernesto se taisent. La maison est silencieuse. La nuit est là, très claire. C'est l'été. Ce sont les nuits d'été qui commencent. Jeanne, quand tu partiras, Ernesto, si je pars pas avec toi, je préfère que tu meures. Ernesto, séparés, toi et moi, on sera comme des morts. C'est pareil. Silence. Jeanne, tu partiras sans moi, Ernesto, dis-le. Ernesto, oui, je partirai sans toi, silence. Jeanne, tu veux pas être heureux, Ernesto. Ernesto, je veux pas, c'est ça. Il crie. Je veux pas. Jeanne, on est pareil, Ernesto. Silence. Jeanne, on est déjà mort, Ernesto, peut-être. Ernesto, peut-être c'est fait, oui. Silence. Ernesto. Chante-moi, Ernesto. Ernesto chante. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Jeanne, c'est toujours cet endroit-là de la chanson qui me fait pleurer. Ernesto ne chante plus, il dit tout bas, jamais. Jeanne, redis les paroles sans chanter, Ernesto. Ernesto dit les paroles sans chanter. Il y a longtemps que je t'aime, dit Ernesto. Jamais je ne t'oublierai. Jeanne, encore Ernesto. Ernesto dit les mots. Jeanne écoute chaque mot. Ernesto, sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Chante, rossignol, chante si tu as le cœur gai. Jeanne et Ernesto se regardent à travers les larmes. Ernesto prend le visage de Jeanne et le met contre le sien. Il dit les paroles de la chanson dans le souffle et les larmes de Jeanne. À la claire fontaine, je me suis promenée. L'eau en était si claire que je m'y suis baignée. Dans son souffle mêlé au sien, dans leurs larmes, Ernesto parle. Il y a longtemps que je t'aime, dit Ernesto. 1000 ans. Le roi était là, demande Jeanne. Oui, il était là. Il était encore dans sa jeunesse, plein de vigueur et de foi. Silence. 1000 ans, tu disais, Ernesto, oui. Ernesto se tait. Ernesto chante encore. Ernesto a cessé de chanter. Il reste visage contre visage longtemps, sans un mouvement. On est mort, dit Ernesto. Jeanne ne répond pas, morte comme lui. Dis encore les paroles, dit Jeanne. Ernesto, il y a longtemps que je t'aime. Jamais je ne t'oublierai. Jamais.
Ava Hervier, vous commencez par un extrait de La pluie d'été de Marguerite Duras, qui est un texte que vous avez dit, joué sur scène avec d'autres.
Absolument.
Quelle est votre relation à ce texte-là et est-ce que c'est une relation qui précède le travail fait avec Lucas Bonifay qui mettait en scène ce spectacle?
Alors non, j'ai découvert ce texte par Lucas Bonifay. Enfin, disons qu'on était en cours ensemble et que... Ça faisait longtemps qu'il aimait ce texte et il a commencé à le travailler en cours. Et après, il a eu envie de le monter au théâtre. Et c'est là qu'il m'a proposé de jouer dedans. Et c'est là que je l'ai lu et c'est là que ça m'a bouleversée. J'avais déjà un petit peu rencontré Duras, son écriture, son rythme. J'avais commencé avec Barrage contre le Pacifique et puis Écrire et puis quelques autres ouvrages. Et c'est vrai que celui-ci m'a bouleversée. Et au moment où il m'a proposé de le travailler, je l'ai lu plusieurs fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le lisais, je fondais en larmes parce que je trouve qu'il y a une espèce de vide absolu et en même temps de vie absolue dans cette écriture, quoi.
Quel est le centre du départ de la narration pour ce texte ?
En fait, c'est Ernesto qui découvre un livre et qui ne sait pas lire et qui, en fait... se met à regarder ce livre et finalement réussit à lire, et c'est un peu une parabole de la connaissance, il réussit à lire et il se rend compte que voilà, il commence à aller à l'école et il dit voilà, au bout d'un moment j'ai arrêté d'aller à l'école parce que à l'école on m'apprend des choses que je sais pas, et je trouve ça assez beau parce que on comprend sans comprendre ce que ça raconte, et en fait tout son univers, tout le monde est chamboulé autour de lui, ne comprend pas cette figure qui à la fois découvre les choses par lui-même et puis va devenir, à la fin, il devient professeur, je sais plus, de mathématiques. Et je trouve ça assez... moi, ça m'a vraiment bouleversée, quoi. Ouais.
Quelle musique vous voulez mettre après ce texte ?
Alors, on peut mettre... j'aimerais bien mettre Let's Dance, une reprise de Bowie par M. Ward.
Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to a song that's playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. that sway, sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like flowers.
C'est beau. Demain, Ava Hervier poursuit le déballage de sa bibliothèque en nous lisant plusieurs poèmes inédits de Guillaume Sauzet, donc réservez votre heure de goûter pour être avec nous. En attendant, il y a des images partout, il faut juste les faire. C'est le Polaroid. Brassière très voyante, sein généreux pris dedans, t-shirt jaune fluo laisse voir la brassière. Dans l'intérieur du bras, 22.01.2014, tatoué en bleu nuit. Les cheveux sont teints noir corbeau, les sourcils très épilés, les cheveux lisses, remontés dans une pince en plastique basique, le lot de 4 à 2 euros sur le marché. Toutes les couleurs sont disponibles. Pour le reste, c'est jeans slim et poignée d'amour correct. En bas, basket montante accordée au t-shirt, le fluo est disposé en parallèle sur les côtés. Elle passe le portique en fichant un bazar sans nom sur le quai, débarque dans le wagon en nage, peste contre le poteau du milieu. Elle se recoiffe, remonte leur jean. Il y a une trace de piercing au-dessus de leurs lèvres, à gauche. Un petit trou vide maintenant. Elles ont dû le faire ensemble. Se tenant la main et rougissant du même élan sous la colère parentale en maugréant des « je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma vie ». Si on met bout à bout leurs joues encore moelleuses et tendres, l'absence totale de rides sous leurs yeux, elles ont 23 ans à tout casser, c'est sûr. La ligne fait Gare du Nord, Saint-Denis, Épinay-sur-Seine, Deuil, Grelais, Sarcelles, etc. Elle joue avec des poussettes. Il y a de vrais bébés dans ces vraies poussettes, à peu près habillés comme elle. Les bébés sourient à leur mère, elles doivent être nées autour du 22 janvier 2014, en témoigne le tatouage. Enceintes, elles ont dit la même chose. Je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma vie.
Before the dawn, lures me up and about, padding on bare feet, quiet as a lover's doubt. The light, early cars, cold and tired eyes. Workaday, workaday, carriages of the night cry by. Can you weave me a forgiving sea? Sew me a boat to get back to thee. Will you build me an honest bridge that I may cross when I come to it? Find me a pair of foolproof wings. Spin me a store that unwinds and sings. Cross when I come to it.
Pour ce Polaroid, Michanel choisissait de vous faire entendre un titre de Tiny Runes, Kerry Age. Aujourd'hui, 2 juin, Mathieu Conquet en parlait ce matin, sort le très beau disque de Christine and the Queens, Chaleur humaine. Elle sera avec nous au Palais de Tokyo à Paris le 20 juin pour une émission un peu spéciale et vous êtes évidemment les bienvenus. Et aujourd'hui aussi, 2 juin, débute la distribution d'un mix musical consacré à l'équipe de producteurs new-yorkais de Bomb Squad. Ils sont pour beaucoup dans l'évolution du rap et de la pop music et Bachir leur rend hommage dans 3 mix originaux. Vous pouvez trouver tout cela sur le site boutique de Rayon du Fond. Enfin, signalons le concert demain à la Flèche de Rap Paris de Mina Tindall à l'occasion de la prochaine sortie de son nouveau disque. Elle s'est entourée de beau monde. Allez-y.
C'est responsable d'avoir des utilisations de la place.
Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le premier moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot but. Bien sûr, cette semaine a pour prétexte le lancement de la Coupe du Monde de football, mais commençons par entendre le mot but dans une définition tout à fait non sportive. Le but, l'objectif, le projet. De plus en plus tôt, de plus en plus souvent, il est question de projets dans nos parcours éducatifs, professionnels, intimes, projets de couple, projets de maison, projets de loi, projets d'enfant, projets artistiques, projets de réinsertion, projets de formation. Le projet oriente l'action, accompagne souvent une décision, il permet de tendre le mouvement vers un point à atteindre qui est chaque fois singulier et élaboré, si tout va bien, par celui qui le formule. Le projet peut-être pensé comme une forme de modélisation de plusieurs caractéristiques fortes et parfois pesantes des sociétés modernes, l'individualisation, l'importance de l'idée de réussite, la centralité de la productivité, mais le projet peut aussi être vu comme une possibilité d'empoigner le réel et sa propre responsabilité, un cadre dans lequel s'alternent la conception continuelle et la réalisation, et ce de manière renouvelé à tous les âges. Jean-Pierre Boutinet, vous avez beaucoup écrit sur cette notion de projet depuis plusieurs années. Vous êtes chercheur en sciences sociales. On peut signaler nombreuses fois réédité l'anthropologie du projet paru en 1990 et la dernière parution dans la collection Quadrige au PUF. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors peut-être il faut d'abord faire une nuance, une articulation, une distinction entre le but, qui est le mot qui nous intéressera jusqu'à vendredi, et le mot projet qui va principalement nous intéresser aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le but est un moment du projet? Comment feriez-vous la part de ces deux mots-là?
Vous avez évoqué, à côté de ces deux mots, un troisième, l'objectif. Donc je situerai but et objectif d'un côté, projet de l'autre. Les buts et les objectifs sont des anticipations déterministes, c'est-à-dire que je me fixe de l'avenir un certain état. Je veux que l'avenir que j'anticipe puisse correspondre à un but ou un objectif. Le projet, c'est une anticipation floue, c'est pas déterministe. C'est-à-dire, je ne sais jamais si je réaliserai le projet que j'ai évoqué.
Donc d'une certaine façon, il faut entendre le mot but et le mot objectif comme quelque chose de plus resserré, qui est capable d'être évalué beaucoup plus qu'un projet est capable de l'être.
Le projet peut être évalué et il est évalué de façon multidimensionnelle. Vous avez raison d'indiquer que but et objectif sont évalués de façon unidimensionnelle, uniquement sur une seule dimension, c'est la réussite.
Voilà.
La réussite. Tandis que dans le projet, par exemple, intervient la satisfaction de l'acteur, qui est aussi important que la réussite. C'est bien beau de vouloir réussir une entreprise, mais si c'est au prix d'une dépression nerveuse, est-ce que ça vaut le coup? Et donc, on sous-pèse différentes dimensions qui structurent le projet. Et puis, je rajouterais par rapport à but et objectif une autre dimension. L'objectif est plus extérieur à la personne. Le but est subjectif. Le but, c'est le niveau de performance que je souhaite atteindre. L'objectif, c'est l'état de la situation duquel je souhaite me rapprocher.
On entend que c'est un rapport au futur sur lequel on pourra revenir et aussi sur la façon dont le sens est présent dans la question du but, dans la question de l'objectif et dans la question du projet. Mais j'ai commencé par dire dans mon introduction qu'il y avait une omniprésence de cette question du projet, qu'il y avait quelque chose dans nos sociétés dites modernes, dites occidentales, dites développées, qui était très présent, qui était présent à presque à tous les moments de nos vies et dans tous les secteurs. Est-ce que c'est vrai et depuis quand c'est vrai ?
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est une figure très moderne, je dirais, qui est apparue à dose homéopathique depuis la Renaissance. La Renaissance, les Lumières, le 19e siècle, le début du 20e siècle, on en parlait, mais de façon très modérée. On a commencé par le projet d'architecture, on a évolué vers le projet de société, et dans le projet de société, au moment de la Révolution, le projet de constitution. Et puis, fin 19e, début 20e siècle, notamment aux États-Unis, le projet pédagogique et la pédagogie du projet, etc. Et il me semble que depuis une trentaine d'années, il y a une rupture, c'est-à-dire les années 1975, à un ou deux ans près, où là, le projet a connu une sorte d'élan invasif, hein, qui fait que maintenant il est devenu notre banalité quotidienne. Et pour n'importe quelle initiative, on va la baptiser projet. Par exemple, j'ai été amené à m'intéresser ces derniers temps au projet de paysage. D'habitude, le paysage, il s'imposait à moi. C'était pas moi qui le façonnais. Je me suis intéressé, ou on m'a demandé de m'intéresser au projet de santé au travail. Avant, les médecins du travail intervenaient sans projet de service. Maintenant, il faut un projet de service. Et donc, toutes les activités de la société tendent à se faire sur le mode projet. Ce qui pose problème et nous amène au risque de la tyrannie du projet.
Quand vous dites, par exemple, pour reprendre le cas du paysage, avant le paysage s'imposait à moi, j'en faisais état, je pouvais le commenter, je pouvais prendre acte de ce paysage-là et je ne pouvais pas faire de projet de ce paysage-là. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas du coup une articulation à faire entre la possibilité de l'homme d'agir sur les choses qui, avant, lui étaient données en l'état ? Est-ce qu'il n'y a pas une relation à faire avec notre technicité, notre société qui va vers plus de technologie ? Et l'idée du projet, est-ce que le fait d'être actif sur tout autant de choses sur lesquelles nous ne pouvions pas l'être avant ne nous rend pas plus aptes ou plus enclins à se projeter ?
Oui, très certainement. Mais vous avez évoqué l'homme, je préciserai, l'homme occidental. Hein ? Cet homme occidental, pour reprendre un autre terme que vous avez évoqué et avec lequel je suis tout à fait d'accord, cet homme occidental est obsédé d'action. Pour lui, le salut, c'est agir. Et le projet va être l'outil qui anticipe l'action et qui oriente l'action. Un philosophe contemporain et qui s'intéresse beaucoup à la sinologie, à la pensée chinoise, François Julien, bien connu, essaie de faire la distinction entre la façon par laquelle le chinois appréhende la réalité, le chinois sur le mode traditionnel, de la philosophie traditionnelle, où surtout il ne veut pas la violenter. Et il l'observe, il la suit. Et l'homme occidental intervient sur la réalité. Il veut la plier à son dessein. Et donc, c'est parce que nous développons une obsession autour de l'action, autour d'une certaine forme d'efficacité que nous accordons autant d'importance au projet.
Pour autant, se projeter n'est pas agir. Se projeter, c'est parler de ce que pourrait être l'avenir, c'est parler de la façon dont nous pourrions exister dans l'avenir ou la façon dont un paysage pourrait exister dans l'avenir. Mais ce n'est pas nécessairement agir, c'est pas la même chose, faire un projet et agir.
Mais le projet n'est pas le rêve. Le projet est de l'ordre de l'anticipation opératoire, c'est-à-dire j'en parle, je parle de ce que je souhaite réaliser. Il y a une unité étroite entre la conception, l'élaboration que je fais de l'avenir souhaité et déjà ce début de réalisation. Et de ce point de vue, les deux syllabes, pour moi, sont très parlantes dans projet. Le projet n'existe pas sans le pro, ce travail d'anticipation, de préparation, mais en même temps, un début de réalisation à travers ce que je suis présentement capable de jeter.
Est-ce qu'il y a à faire, alors, dans ce cas, avec la décision ? Est-ce que le projet est toujours à raccrocher à l'idée de décider quelque chose ?
Alors, j'ai commencé mes travaux de recherche par la décision. Et la décision, nous en parlions il y a une trentaine d'années avec des modèles, souvent des modèles mathématiques. Nous formations la décision. C'est ce qui définit la décision, c'est l'irréversibilité, déchidéré, hein, c'est scission. Hein, dans la décision, je crée donc une orientation de l'avenir. De laquelle, par exemple, quand je signe un document, je vais avoir de la difficulté à revenir en arrière. Ce qui définit la décision en termes de temporalité, c'est l'irréversibilité.
Et la rupture, du coup, avec ce qui précède.
Et c'est la rupture avec ce qui précède. Hein. Je vous l'indique, je vous le dis, la signature pour marquer ma décision est tout à fait significative de cette irréversibilité, de cette rupture. Hein. Sinon, on va me dire, tu sais pas ce que tu veux, si je reviens sur ma décision. Tandis que ce qui caractérise le projet, c'est l'itérativité.
L'aller-retour permanent.
L'aller-retour permanent entre conception, réalisation, réalisation, conception.
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut un peu développer cette question-là, à savoir, il y a une différence entre ce qui est décidé et qui presque a un point fixe, et le projet qui finalement n'a jamais de point et presque est caractérisé par le mouvement.
Oui, le projet est caractérisé par le mouvement, mais il est d'abord caractérisé par l'analyse de situation. Où est-ce que je mets les pieds ? Et est-ce qu'il est, pour moi, opportun d'agir ? La question des opportunités est essentielle. Mais il y a bien des petites décisions que je prends dans un projet. Lorsque je décide que, oui, les opportunités sont là, les contraintes ne sont pas trop fortes, je peux me lancer dans le projet, à partir de ce moment-là, je suis dans le mouvement. Dans le mouvement, c'est-à-dire dans le processus. Et si nous revenons en arrière par rapport au but et à l'objectif, la grande distinction entre projet d'un côté, but et objectif de l'autre, c'est que fondamentalement le projet est du processus, c'est de la démarche, hein, alors que l'objectif et le but sont du point terminal. C'est le point terminal que j'atteins point terminal duquel je m'écarte.
Est-ce qu'il y a un domaine dans la vie où la notion de projet est plus prégnant que dans les autres domaines ? Si on prend encore une fois ces sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons et si l'on se réfère aux 30 dernières années ?
Oh, je vous en donnerai bien. Dans la mesure où il m'arrive assez souvent de définir le projet comme étant de l'antidestin. C'est-à-dire ce qui me permet de lutter contre la nécessité. Contre
la détermination ?
Le déterminisme, plus que la détermination. Et ce qui fait notre destin, c'est notre finitude, c'est notre mort. Et donc, le projet, c'est une... D'ailleurs, il est très intéressant de constater que les biologistes utilisent beaucoup le projet, justement pour définir cette capacité du vivant à perdurer dans la vie et quelque part à affronter la mort et à s'écarter momentanément du destin de la mort. Et il y a une autre forme de mort vis-à-vis de laquelle tous les jours nous luttons, c'est la répétition. Le projet, c'est de l'anti-répétition. Et donc, c'est une façon pour le vivant de mettre un peu plus de vie. Alors, vous me posiez la question, quel type de projet...
À quel endroit de nos vies c'est le plus prégnant ?
Mais je dirais que c'est le projet existentiel. C'est ça, c'est ma capacité à exister, Et alors, ma capacité à exister, c'est-à-dire ma capacité à sortir de moi-même pour aller à la rencontre de, du monde dans lequel j'évolue. Alors, à quel moment de l'existence le projet est-il le plus prégnant ? Pas du tout au niveau de l'enfance. L'enfance est le temps du rêve, même si c'est un rêve éveillé. Or, nos projets d'adultes se nourrissent de nos rêves d'enfants. Et donc, c'est sans doute à la post-adolescence, avec le projet d'orientation, que pour la première fois survient chez le jeune cet appel à aménager un avenir qui l'inspire, un avenir auquel il va pouvoir vis-à-vis duquel il va pouvoir orienter son activité professionnelle ou le style de vie qu'il entend se donner.
Et là, se cristallise pour les différents jeunes gens justement qui sont confrontés. Et on est en plein dans la période des vœux, ce qu'on appelle les vœux post-bac, où les futurs bacheliers vont décider de leur orientation. Ce qui est un moment, vous dites, un avenir dans lequel on se projette avec désir. Ça peut être aussi un moment de cristallisation d'angoisse, de passage à la vie d'adulte, de passage à la responsabilité. Je parlais du projet comme étant le lieu aussi d'une responsabilisation, d'une emprise avec le réel. Vous avez écrit sur la vie d'adulte et sur l'immaturité de la vie d'adulte. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi à mettre en relation entre notre façon de s'emparer de la vie d'adulte dans les 50 dernières années et notre rapport au projet ?
Oui.
De quelle manière ?
De la manière que le projet... exprime en quelque sorte l'usage intensif aujourd'hui du projet, exprime le mal-être de la vie adulte. Il y a 50 ans, la vie adulte, et ce n'était pas forcément une époque plus heureuse, je suis dans le descriptif, mais il y a 50 ans, la vie adulte était encadrée par des repères, par des références, par des institutions, par des normes. Et en quelque sorte, le projet ou l'usage intensif du projet a remplacé ces institutions qui sont devenues en crise, qui sont aujourd'hui chaotiques, hésitantes, que ce soit l'institution famille, que ce soit l'institution travail, que ce soit une institution sociale. Et dans cette individualisation marquée qui est la nôtre, l'adulte est seul face à lui-même. Seul face à lui-même et à cette nécessité d'aménager un avenir possible. Quand on pense que la notion de projet de vie qui caractérisait le devenir adolescent il y a 40 ans a émigré à l'autre bout de la vie et maintenant dans les EHPAD, on demande aux personnes âgées d'essayer d'expliciter leur projet de vie, mais pas un projet de vie tant prospectif qu'un projet de vie rétrospectif. Mais est-ce que vous pouvez donner sens à ce que vous vivez actuellement en essayant d'identifier le fil rouge qui a été celui de votre existence autour duquel ont oscillé les grands moments, les grands événements de cette existence. Donc, quelque part, le projet existentiel exprime cette solitude de l'adulte qui est seul face à lui-même et a peu d'appui dans son environnement.
Quand vous parlez de la difficulté de s'en référer à différentes institutions, on ne peut pas non plus ne pas faire de relation entre le retrait progressif, même si peut-être ça a tendance à évoluer en ce moment, mais le retrait progressif du religieux et du cadre religieux et de la référence religieuse en termes de sens. Est-ce que quand la religion était plus prégnante et plus directive dans la société, on avait tant besoin de produire des projets de vie ? Est-ce qu'il n'y avait pas dans le religieux un projet déjà tout tracé pour l'humain ?
Tout à fait. Le religieux est l'une de ces institutions qui a été déstabilisée, qui est entrée en crise et qui ne donne plus de mode d'emploi de ce que devrait être la vie adulte. Et donc, ce retrait du religieux contribue à augmenter, en quelque sorte, la solitude de l'individu. Alors, C'est pas quand il y avait du religieux que la personne n'était plus libre. Hein, parce qu'elle était prise dans des devoirs, dans des obligations, c'est pas...
Mais aussi dans une formulation qui était faite par le religieux, c'est-à-dire que dans ce que vous écrivez aussi du projet existentiel qui est formulé par l'individu, il y a aussi cas parfois, mais la possibilité de s'emparer de son propre devenir, de sa propre existence, et que même si les normes sociales sont très pesantes, dans la possibilité de formuler son propre projet, il y a une libération de ces cadres-là.
De ces cadres...
Des cadres religieux, du passé.
Mais... Chasser le naturel, il revient au galop.
Oui, bien sûr.
Et maintenant, à remplacer le religieux, le procédural. Parce que vous ne pouvez plus faire un projet librement. On vous dit comment faire un projet. Ce qui reste des institutions est là pour vous indiquer dans quel horizon temporel doit s'inscrire votre projet, dans quel horizon temporel doit s'inscrire votre projet, par quelles étapes il doit passer, ce que vous devez justifier comme moyen à votre disposition, etc., etc. C'est-à-dire que nous avons gagné au change un projet qui devient de plus en plus normatif. Et d'où, quelque part, la tyrannie du projet que vous évoquiez en début d'émission.
Mais c'est quoi le projet ? Votre projet, c'est quoi ?
Bonjour, je suis coach personnel et professionnel et je vais vous présenter comment clarifier votre projet professionnel. Clarifier notre projet professionnel, c'est quelque chose que nous serons tous amenés à faire, souvent plusieurs fois dans notre vie.
Et alors, quelles sont tes motivations ?
J'ai pas envie qu'on... Quand je veux grandir, je deviens clochard, un truc comme ça. Je veux avoir mon boulot, mon salaire, des enfants et une femme. J'aimerais être garagiste. Ça a quand même beaucoup d'argent. 1800 euros par mois.
3615, code de qui n'en veut, le rendez-vous des jeunes qui n'en veulent. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, c'est mon gars Bruno Lochet. Oui. Et alors, quelles sont tes motivations ? Du rite.
Oui.
Quelles sont tes motivations
alors, former une équipe.
La première, c'est une motivation sentimentale.
Oui, sentimentale, hein, oui.
Bon, la deuxième, maintenant.
La deuxième, c'est surtout pouvoir former une équipe.
Voilà !
L'idée, en mettant ça en place, c'est aussi de les amener à se projeter. Parce qu'il y a une grosse difficulté des fois pour ces jeunes. Alors pas tous, hein, j'en parle en général, mais c'est cette incapacité à se projeter.
Jean-Pierre Boutinet, ce montage sonore de Cyril Baer qui fait écho à la fameuse tyrannie du projet, à l'obsession du projet dans nos vies contemporaines. Peut-être qu'on peut passer à une vision un peu plus positive du projet parce qu'on a expliqué que c'était aussi le reflet et la façon dont chaque individu rendu à sa solitude existentielle essayait d'aménager cette solitude pour lui donner sens. Dans quel moment et dans quelles circonstances est-ce que le projet est utile ? Est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce qu'il est constructif pour l'individu ?
Il y a au moins des moments où il n'est pas du tout constructif.
Ah oui, vous restez vraiment dans la zone négative du projet.
Non, du tout. Notamment dans les temporalités d'aujourd'hui, lorsque ces temporalités sont des temporalités de l'immédiateté et de l'urgence. Lorsque la personne est en situation de trop grande fragilité. Mais lorsque nous ne sommes pas dans des situations limites, je dirais que c'est la liberté de l'individu de choisir entre deux possibilités. Soit être en projet, soit être en jachère. Et j'aime bien utiliser la métaphore agricole avec les trois statuts de la terre. Soit vous mettez la terre en culture, vous vous donnez un projet, le projet de récolter du blé ou de l'orge d'ici 6-8 mois. Soit vous faites reposer la terre, vous la mettez en jachère, mais ce à quoi nous sommes confrontés, c'est éviter les friches psychologiques, éviter les terres qui sont abandonnées. Et donc, un jeune, par exemple, dans son orientation, qui n'a pas de projet, s'il est heureux dans sa façon de vivre, s'il n'est pas confronté à des problèmes par trop immédiat, ben, laissons-lui le temps de trouver les opportunités à partir desquelles il va rebondir sur du projet. Il me semble que nous devons éviter d'être normatifs, puisque le projet est une démarche créative. Respectons cette démarche créative qui ne peut pas être planifiée, qui intervient à un moment donné, parfois, où on ne s'y attend pas. C'est là l'occasion d'évoquer l'importance des opportunités. Est-ce que les opportunités sont là pour un projet ou pas? Et surtout, si ces opportunités ne sont pas là, je ne me lance pas dans le projet.
Mais en même temps, tout à l'heure, vous disiez « on chasse le naturel, il revient au galop », c'est-à-dire qu'on a beau, entre guillemets, s'être débarrassé d'institutions normatives qui dictaient pour nous des projets. Finalement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, joue le rôle de ces institutions-là qui étaient des garde-fous et qui parlaient à notre place? Est-ce qu'on accepte vraiment des êtres en jachère aujourd'hui, quel que soit leur âge? Est-ce qu'on accepte que quelqu'un dise « ben non, moi, j'ai pas de projet, en fait. Je fais rien en ce moment. » Est-ce que c'est tellement bien vu par la société contemporaine? Je fais rien, puis je prévois rien faire.
Pour l'instant.
Pour l'instant.
Oui. Je crois que... Enfin, c'est du moins...
C'est accepté par vous.
Oui, mais la démarche que je préconise, c'est à partir du projet d'être contre-culturel. C'est-à-dire de ne pas aller dans le sens des demandes culturelles qui font qu'il faut absolument faire du projet. Je pense que le projet, avec les risques qu'il comporte, n'est possible qu'à certaines conditions. Est-ce que les conditions sont réunies ou pas?
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'oppose en vous écoutant. Vous dites en même temps, le projet, c'est la créativité, c'est l'invention. Mmh. Et en même temps, quand on pense à la façon dont le projet est imposé, c'est l'inverse de la créativité et de l'invention. Quand vous, dans votre ouvrage, énumérez les différents projets, vous allez aussi du côté du très intime, à savoir le projet de couple, le projet d'enfant, le projet de maison. Ici, on entend que finalement, l'idée de projet pénètre jusque dans la vie la plus intime des individus en y injectant énormément de normes. Et il n'y a plus d'inventivité.
Si vous allez dans la vie la plus intime des individus, par exemple du couple, vous évitez d'y mettre des normes. Vous laissez l'intime gérer par lui-même l'intime. Alors que certaines normes persistent, parce que nous sommes des êtres sociaux, ok, mais à condition que les normes ne tuent pas le projet.
Vous vous dites là où il y a du projet, il y a forcément de l'inventivité.
Ah, pas forcément. Parce que je m'intéresse aussi aux pathologies du projet. Il y a toutes les dérives de projet. Justement, l'inventivité, c'est la non-répétition. Ou une autre façon de s'exprimer, l'inventivité, c'est la singularité. Quelle est ma capacité à développer, par exemple, moi, adulte, un parcours singulier? Et si ce parcours est singulier, il sera d'une façon ou d'une autre créatif.
Par exemple, on peut parler de ce qui semble inventif quand on fait une proposition à des adultes qui sont au travail d'être en formation et de formuler leur propre parcours, leur propre désir de formation. Là, il s'agit vraiment d'un projet qui va en s'individualisant, mais plutôt du bon côté de l'individu.
Absolument, oui. Et c'est ce que j'appelle le projet individuel de formation. Et peut-être qu'il y a une notion qu'on n'a pas abordée et qui est tout à fait proche de l'inventivité, c'est la capacité à être auteur. Il n'y a pas de projet sans auteur. L'auteur, c'est bien cette instance, individuelle ou collective, qui est capable d'articuler un travail de conception, donc de création, et une mise en œuvre de cette conception. Et pour être auteur, vous avez évoqué tout à l'heure la responsabilité, il faut que je sois capable de reconnaître ce travail comme mien. Il faut que je sois capable d'assumer la responsabilité de mon projet. On parle beaucoup de responsabilité aujourd'hui. Je crois que...
Au niveau politique, par exemple, on entend combien d'électeurs dire « Je ne sais pas pour qui voter, pardon, car il me semble qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. » On entend énormément ça sur le plan politique. Est-ce que c'est une articulation à faire avec l'absence de responsabilité dans les hautes échelles de l'État ?
Ou alors là, vous allez assez loin. Je ne suis pas compétent pour trancher. Ce qui est sûr, c'est que les projets politiques sont comme les autres projets. Et, ils sont tributaires du court-termisme. Et nous faisons de plus en plus de projets à court terme. D'ailleurs, c'est symptomatique que l'émission essaie d'articuler projet et but. Le but est à court terme. Et ce qui pourrait nous libérer, mais nous sommes atteints de cécité, nous ne sommes plus capables de voir loin. Ce qui pourrait nous libérer politiquement, c'est d'avoir des perspectives à moyen terme. Nous n'avons pas de perspectives à moyen terme. Nous sommes dans du court-termisme et donc on a l'impression que les politiques n'ont pas de projet.
Tout à l'heure, vous avez fait le parallèle entre une conception occidentale, européenne et la philosophie de François Julien qui s'intéresse à la Chine. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi à voir entre les sociétés urbaines et les sociétés villageoises ? Dans certains de vos écrits, articles, il y a aussi question de ça, d'une sorte de culture villageoise, culture du village, qui aurait moins l'impératif du projet que ne l'aurait la ville. Est-ce qu'il y aurait une sorte de culture urbaine du projet ?
Oh, tout à fait. La culture villageoise, j'ai été marqué par différents séjours en Afrique subsaharienne, dans des villages. La culture villageoise travaille sur un autre type d'anticipation, c'est celui de la prévoyance. On est dans la prévoyance. Et donc, on est dans du bricolage de l'anticipation sur plutôt le court terme. Mais ce qui est important pour la culture agraire, c'est plutôt le passé. C'est de conjurer le passé. C'est de pouvoir s'accorder avec ce passé. La culture urbaine est plus, oui, une culture du progrès. Mais le problème, et ça revient en boucle à voir autrement les autres questions que vous avez posées, le problème, c'est que nous sommes orphelins du progrès. Il n'y a plus de progrès. Pendant le XVIIIe siècle, le XIXe et jusqu'à ces dernières décennies, progrès et projet étaient très liés. Le projet, c'était une façon d'orienter le progrès. Et maintenant, on parle plus facilement de régression que de progrès.
En tout cas, l'horloge tourne et nous progressons, ça c'est certain. Là, il est 16h53, 40, 41, 42, 43 secondes. À cette heure-ci, toute la semaine, nous feuilleterons le recueil de Gilles Heillot, qui est un des principaux représentants des courants assez similaires, la nouvelle figuration et la figuration narrative. Le recueil s'appelle « Dans le bleu foncé du matin », paru en 1987 aux éditions Bourgois. Le lecteur toute la semaine sera Bruno Raffaelli de la Comédie Française et le poème s'appelle « Traduit du grec ».
Dans l'incendie final de Knossos, a été imprimé pour toujours, par le feu dans l'argile, la liste de ceux qui disparaissaient. Dure tablette de paroles, paroles autrefois ailées, mots devenus choses, vent changé en pierre. Ce qui n'a pas péri par le feu a été sauvé par le naufrage. Ils sont ensevelis, non loin, les uns des autres, les torses épars, des dieux couverts de cheveux, comme par les plis d'un voile fluide comme autrefois, invisibles sous la moire hypocrite qui clapote paisiblement, aujourd'hui encore. Improbable Électre, nature fidèle qui ne console pas, tu as sauvagement gardé intacte leur disparition sans toucher à rien. D'une main pieuse comme celle d'une autre sœur, tu as cependant accomplit les rites funèbres selon la coutume, car rien ne se voit plus. Le temps qui s'est caché, pareil au ciel sans voile, ne permet pas de découvrir, car il ne dissimule rien. D'eau lointain des montagnes, catastrophe des ravins, anfractuosités innombrables, offertes aux ruses limitées, que s'est-il passé? Rien n'a changé et tout a disparu. Un vent propice souffle. Le sommeil de midi est profond. C'est toujours l'heure d'accomplir aisément l'action mauvaise. Soudain, comme de l'oubli, du silence épineux, surgit, neuf comme au premier jour, monstre plus lisse que le marbre, un bâtard boiteux qui bégait.
Jean-Pierre Boutinet, merci beaucoup d'avoir ouvert pour nous cette semaine, pas du tout consacrée au projet, mais au but. On sera très court-termiste après avoir été à la vision longue. Rappelons Anthropologie du projet aux éditions PUF, Psychologie de la déconduite à projet, que sais-je, et Les grammaires du projet, c'est aussi aux éditions PUF. Pour écouter cette émission, France Culture .fr fonctionne parfaitement. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast. L'émission s'appelle Pas la peine de crier. Les petits bouts qui la composent s'appellent Le poème du jour, Le Polaroid et Je déballe ma bibliothèque. Pour nous écrire, apparemment, vous savez parfaitement où aller. Le formulaire est sur notre page. Merci beaucoup pour vos petits mots. Aux manettes aujourd'hui, c'était Jean-Frédéric. Merci à Céline Geoffroy, Marie Placet et Béatrice Leca pour le poème du jour. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec de Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel. Dans un instant, le 5 à 7 et nous, à demain.